Attention, et maintenant, les plus précieux serviteurs du disque qui vont œuvrer maintenant pour la joie de tous les amateurs de micro-sillons.
Calade, ma radio.
J'aimerais toujours.
Calade vous propose d'écouter.
Pour le temps des
bêtises. Vous allez bien? Amateurs de micro-sillons, bonjour pour cette émission animée par The Core, faite entièrement à la main où l'on fait de sales mélanges à base de bonne musique et de mauvaise foi. Aujourd'hui, pas mal de poètes maudits, mais compensés par de magnifiques prestations féminines et positives, plutôt vers la fin. On commence par du patou neuf. Inoxydable Green Onions, c'est par la sempiternelle, et oui, la sempiternelle rubrique obsèque qui revient sans arrêt, que l'on commence aujourd'hui avec le décès de Steve Cropper, le guitariste de Booker T and the MGs, ce type qui n'a jamais cherché la lumière, mais qui a largement participé à ce que la soul soit la soul avec le label Stax. Vous avez tous vu sa silhouette longiligne et son look à la Big Lebowski dans le film Blues Brothers, bien entendu. Avec des phrases de guitare courtes et très nettes, il a sculpté le son de la soul music, toujours au service de la chanson, tout l'inverse des guitaristes pleins de doigts qui en mettent partout en vain. Il a été l'illustration brillante de ce que pouvait dire Miles Davis sur l'importance du silence entre les notes. Il disait « Si je peux jouer moins, c'est que j'ai bien joué ». Il s'est particulièrement illustré sur ce morceau Green Onions qui est devenu un tube et qui a une petite histoire. Le groupe devait accompagner en studio un chanteur qui n'est jamais venu et pour rentabiliser la séance, Cropper a composé le titre instrumental à partir d'un riff trouvé en répète et paf, bingo, le tube. Et qui plus est, le tube instrumental sans voix. Donc c'est pas si fréquent. C'est pas si fréquent du tout même.
I have decided, apart from US company, everything I have is borrowed, and you could give it all to me. I started thinking about those voices in the crowd. Words that started with a whisper, it seems they've gotten all too loud.
Anything, 'cause I think I'm gonna win.
Ooh, Las Vegas, ain't no place for a purple like me, no. Ooh, Las Vegas, ain't no place for a purple like me. Every time I hit your Crystal City, you know you're gonna make a red out of me.
Well, the Queen of Spades is a friend of mine. The Queen of Hearts is a bitch. Someday when I clean up my mind, I'll find out which is which.
Ooh, Las Vegas, ain't no place for a purple like me.
City, you know you're gonna make a wreck out of me.
Spend all night with the dealer trying to get ahead. Spend all day at the Holiday Inn trying to get out of bed.
Ooh, Las Vegas ain't no place for a poor boy like me.
Graham Parsons et Emmylou Harris, ouh, Las Vegas, oui, Las Vegas, ouais, ouf, Las Vegas, ça craint plutôt. Graham Parsons, qui est l'un de ces musiciens tués par une toxicomanie, qu'il a largement partagé avec Keith Richards à la Villa Nellcott à Saint-Jean-Cap-Ferrat dans les années 70. Ses dernières volontés précisaient qu'il voulait se faire incinérer dans le désert, mais sa famille s'y étant opposée, des potes à lui, dont le futur réalisateur Philip Kaufman, notamment le film L'insoutenable légèreté de l'être, c'est L'insoutenable légèreté de l'être, c'est lui, ont piqué le corps, ils ont volé le corps et sont allés le brûler là où ils le voulaient, dans le désert. Avant, avec le petit rythme à la Riders on the Storm, assez intriguant, c'était quelqu'un qui, lui, s'est évaporé dans le désert. Jim Sullivan, qui a été auteur de ce magnifique album UFO, qui est une belle collection de chansons folk très bien arrangées, jouée par la fameuse Wrecking Crew, dont je vous ai déjà parlé, et aussi influencée par ce que l'on nomme la Southern Soul. Je fais des efforts sur l'anglais aujourd'hui. Pour vous faire une idée de ce courant musical des types comme Tony Joe White. Sullivan a baptisé son album UFO car il croyait à fond aux extraterrestres. Un jour, il est parti en road trip et plus de nouvelles, il a disparu. Il est enregistré sur un registre d'hôtel au Nouveau-Mexique et sa coccinelle est retrouvée à quelques kilomètres de là avec sa guitare et ses affaires à l'intérieur. Il n'en faut pas plus pour lancer la légende selon laquelle il aurait rejoint les extraterrestres ou les extraterrestres l'auraient enlevé. Il ne sera jamais retrouvé malgré d'importantes recherches lancées par sa famille et ses amis dont les acteurs Harry Dean Stanton et Lee Marvin. Oui, Lee Marvin, le sosie de Nick Cave, ou plutôt l'inverse, puisque c'est Nick Cave qui est membre du club des sosies de Lee Marvin. Si, si, c'est vrai, je vous assure. Cet album date de 1969 et l'évaporation du bonhomme de 1975, une époque où il était ruiné par l'alcool et avait une relation conjugale très tempétueuse, voire peut-être même tueuse tout court, ce qui donnerait une autre explication à sa disparition. On continue dans la déglingue.
Well, snow don't fall on summer's time. Wind don't blow below the sea. My love lies 'neath frozen skies and waits in sweet repose for me. Well, her eyes did laugh, her lips did sing, her legs did roll, my soul to bring. Her hair did curl, and her thoughts unfurl, like birds upon the wings of spring. My love, I glance at me. Where snow don't fall on summer's time, wind don't blow below the sea. My love lies 'neath frozen skies and waits in sweet repose for me.
Calade.
Pour le temps des
bêtises.
Ma radio.
Précieux
serviteur du
disque. Town Van Zandt avec Snow Don't Fall, la neige ne tombe pas. Oui, aujourd'hui nous allons nous complaire un peu dans les légendes de musiciens déglingués. Et là, Town Van Zandt ferait passer Keith Richards pour Yves Duteil. À une époque, j'aurais plutôt dit l'abbé Pierre, mais là, c'est plus trop possible. Town a des aventures pas communes. Sa copine le retrouve, la bouche en sang, et il a perdu ses dents à Nord en jouant au dé. Il a joué ses dents au dé. Il consomme héroïne, bourbon, coca ou vodka, comme beaucoup de rockstars, mais lui, c'est un intraveineuse. Maniaco-dépressif, schizophrène à tendance suicidaire, vous en voulez encore, bande de voyeurs, va. Prosélytisme forcené, accident à répétition, amitié douteuse, passion pour les tripots, il va d'échec en échec car il ne peut chanter que de la country à une époque où c'est le psychédélisme qui est à l'honneur. Mickey Newbury, ce génie dont je passerai des morceaux un de ces quatre, arrive à le faire signer sur Poppy Records, mais Van Zandt renie le disque car trop de clavecins, de chœurs, d'écho, bref, trop produit. En conséquence, il n'aura de cesse de réenregistrer des versions dépouillées dont tout le monde se foutra. Il aurait pu, un peu plus tard, quand la country est revenue à la mode, rejoindre le mouvement Outlaw avec Kris Kristofferson et Willie Nelson, mais trop atypique, trop toxico, il ne tenait plus debout sur scène. Mort d'un arrêt cardiaque en 1977 à 52 ans, il laisse quelques albums beaux et traumatisants. Il existerait 3600 reprises de ses chansons, tant il était admiré par ses pairs aux États-Unis. Ici, il est plutôt inconnu, malgré un très bon documentaire diffusé sur Arte. Thank you. À vrai dire, les belles voix de chanteuse, c'est, j'avais dit à la fin, c'est pas la fin, c'est maintenant, c'est au milieu. Ganavia, je viens de découvrir cette multi-instrumentiste et chanteuse née à New York, dans le Queens, élevée en Inde. Elle a été formée au chant et à l'harmonium en Inde du Sud, au Tamil Nadu, la région de Pondichéry. Formée dès l'enfance au Harikatha, art du récit mêlant chant, musique et narration dans la tradition hindoue. Portée par cette belle voix grave et éthérée, Ganavia développe une œuvre introspective et profondément spirituelle. Elle a grandi au rythme des pèlerinages, chantant avec sa famille les Abang, poèmes sacrés sans interruption, durant plusieurs jours de marche. Son parcours l'amène à tisser une œuvre singulière, à la croisée des musiques canartiques, du jazz, de l'expérimentation ambiante et de la poésie mystique. Après s'être illustrée aux côtés d'autres musiciens indiens ou américains, elle poursuit une démarche personnelle et publie en 2024 deux albums solo. Le premier est un recueil de chansons célestes et épurées où l'électronique affleure, et sur le second, elle réunit une trentaine d'artistes pour un hommage à John et Alice Coltrane. Composé de chants méditatifs et hymnes dévotionnels. Son dernier album, Om Nilam, publié en mai 2025, poursuit cette quête intérieure puisant dans la poésie dévotionnelle tamoule pour interroger notre lien à la terre, au sacré et au silence. C'était la page culturelle de l'émission.
Pour le temps, les
bêtises.
Oh,
Une découverte à nouveau et une magnifique voix féminine avec Leila Martial, chanteuse française qui, chose rare par ici, surtout par ici, joue de sa voix comme d'un instrument entre cris, souffle et onomatopée. Elle dit « Le mot vocaliste me convient mieux, je travaille beaucoup avec les langages imaginaires, les onomatopées, le timbre. Ce n'est pas le mot qui est le premier, c'est le son. » Son goût pour l'expérimentation se prolonge jusque dans la technologie, effets, boucles, pédales deviennent prolongement de sa voix, voix où chaque souffle, chaque note raconte une histoire sans mots. Bon, allez maintenant, un peu de violence acariâtre.
To put the light on, I'm so afraid I've lost control. I'm suffocating without a word, crazy with sweat, spittle on my jaw. What's that funny noise? What's that on the floor? Waves of fear pulsing with death. I curse at my tremors. I jump at my own step. I cringe at my terror. I hate my own smell. I know where I must be. I must be in hell. Yeah.
for when you get a face. It's fascinating to observe what the mirror does, but when I dine it for the wall and I've set a place, I belong to the blank generation and I can take it or leave it each time. Well, I belong to the generation, but I can take it or leave it each time.
Ah, le rock new-yorkais avec les guitares abrasives, comme on disait à l'époque. Tout d'abord, Lou Reed sur l'album The Blue Mask, pas l'un de ses plus connus. Celui-ci a divisé la critique, ce qui est toujours bon signe, parce qu'il est pas mal du tout. Sur ce morceau-titre, le morceau-titre The Blue Mask, Lou Reed, toujours guiré, met en scène sa propre crucifixion, déblatérant les sévices atroces qu'il s'octroie dans un déluge de guitare électrique d'une belle agressivité. Il s'agit d'un retour à une formation très rock, sans clavier, qui fonctionnera très bien sur scène avec Robert Quine à la guitare. Quine était un fan absolu du Velvet Underground. Avant d'être musicien pour Lou Reed, il a même enregistré des bandes de celui-ci sur scène sur la côte ouest des États-Unis. C'est un Velvet deuxième période, presque apaisé. Les bandes sont d'une qualité médiocre. Elles ont été éditées en triple CD sous le nom de The Quine Tapes. Il en existe une version vinyle qui atteint des prix astronomiques, totalement abusive, d'autant que c'est un truc enregistré avec un magnéto à cassette, je pense. Tiens, la cassette audio est de nouveau à la mode. Oui, ce truc au son infâme qui se coinçait dans les lecteurs, ce truc qu'il fallait rembobiner avec un crayon, eh bien cela revient à la mode. Allez comprendre, c'est peut-être la mode du masochisme. Robert Quine, pour en revenir à lui, qui, vous l'avez entendu, sur le deuxième morceau, le fameux Blank Generation de Richard L. Richard L, New-Yorkais, poète et véritable inventeur du punk, les cheveux en pétard et les épingles à nourrice, c'est lui. Malcolm McLaren lui a tout piqué pour les Sex Pistols. L, de son vrai nom Richard Meyers, a choisi Richard L comme pseudonyme en référence au recueil de poèmes Une saison en enfer d'Arthur Rimbaud. Oui, à New York, ils ne juraient tous que par Rimbaud, Verlaine et les poètes français, de Patti Smith à Tom D. Verlaine. Richard L., qui a réalisé cet album culte et a si peu donné suite. Un deuxième, et puis c'est tout. Je ne sais pas comment il paye le loyer depuis. Allez, on reste à New York, mais New York aujourd'hui.
When we are singing. Floating on, and everything is true.
Il n'y a que David Byrne pour chanter comme ça. Il n'y a que lui qui peut chanter, oser chanter comme ça. Oui, l'ex Talking Heads, je ne dis pas leader car cela fait 40 ans qu'il se bouffe le nez. Byrne, qui avec ou sans Eno, produit toujours d'excellents disques et a l'air d'avoir des formats de concert vraiment novateurs. Concert que je me suis contenté de voir sur le tube vu le prix. Prohibitif des places, c'est dommage. Vraiment, j'aimerais beaucoup voir ce type en scène. J'avais vu avec les Talking Heads, là, j'aimerais bien le voir, mais non, c'est pas possible. Plus le voyage à Paris, c'est incroyable. Il y a une inflation sur les places de concert qui devient insupportable. Et là, je m'aperçois que je devais passer un morceau d'une autre New-Yorkaise qui s'appelle Kim Gordon, la bassiste de Sonic Youth, et que j'ai oublié le morceau. Donc, je le passerai une prochaine fois. On revient à du classique, du classique, du classique, du classique.
Rich relations. may give you crust of bread and such. You can help yourself, but don't take too much. Mama may have, and Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own.
Ah là, c'était un petit pressage d'époque, on entend les petits crrrr derrière. Blood, Sweat and Tears, le sang, la sueur et les larmes. Ce groupe qui a été le premier à tenter un sale mélange rock, soul et jazz avec une section de cuivre avant l'autre groupe qui a fait ça, Chicago. Ce groupe qui a été numéro 1 aux USA, oui, un truc comme ça pouvait grimper au hit parade à l'époque. Monté par le fameux Al Kooper qui joue de l'orgue sur Like a Rolling Stone de Bob Dylan, ils produisent un très bon premier album avec le succès à la clé, mais Al Kooper veut aussi chanter et les autres ne sont pas d'accord, donc ils le virent. Ils recrutent vite par annonce le fantastique David Clayton Thomas, un vrai chanteur lui, et balancent un second album époustouflant qui pulvérise les charts, ils sont tout en haut. Présents au fameux festival de Woodstock, ils jouent trois morceaux et leur manager leur dit d'arrêter car il est mécontent du contrat pour le film qui est en train de se tourner. Donc ils ne seront pas dans le film. Et bien voilà, des fois le truc que je ne comprends pas, mais les gars, vous êtes musicien, vous êtes sur scène, le manager vous dit d'arrêter, vous arrêtez. Mais non, continuez, il y a des gens. Enfin bon, bref, je ne comprends pas. Ensuite, David Clayton Thomas, qui est canadien, est menacé d'expulsion du territoire des États-Unis. Oui, déjà à l'époque, il n'y avait pas encore ICE, mais il était déjà menacé d'expulsion. Juste avant une tournée fondamentale pour enfoncer le clou du succès. Leur manager, encore lui, fait un deal avec le département d'État qui a besoin de vendre une image positive du pays de l'autre côté du rideau de fer. Ils acceptent et il n'est pas expulsé. Ils partent alors en tournée en Yougoslavie, en Roumanie et en Pologne, de l'autre côté du rideau de fer. Avec plus ou moins de bonheur, ça tourne à l'émeute à Bucarest où Ceausescu lâche la police avec ses chiens sur la foule déchaînée. Ceux qui y étaient ont témoigné bien plus tard la claque et la libération qu'avait été ce concert pour les gens de l'autre côté du rideau de fer, de l'autre côté du mur. Ils ont été le premier groupe occidental à tourner à l'Est. À leur retour, ils sont harcelés de questions, bien entendu, et répondent qu'en comparaison, on vit plutôt bien aux États-Unis. Ouh là là, le groupe qui avait milité contre la guerre du Vietnam se voit taxé de collaboration avec Nixon et se fait démonter par toute la presse de gauche à travers des articles dont les auteurs reconnaissent aujourd'hui qu'ils étaient des monuments de mauvaise foi. Ouais, mais la mauvaise foi, ça fait partie aussi de notre émission d'ailleurs. Peu importe, le groupe devient tricard et aggrave son cas car étant le premier groupe d'Europe rock a joué au César Palace à Las Vegas. La coupe est pleine pour la presse qui leur assure définitivement une réputation de collabo. Il existe un documentaire très intéressant sur le sujet. Malgré tout cela et de nombreux changements de personnel, ils ont fait une belle et longue carrière. Grateful Dead, Sage and Spirit. Nous terminons l'émission donc comme nous l'avons commencé, hélas, avec la rubrique obsèques et le décès de Bob Weir, guitariste du Grateful Dead. Ce groupe, il y en a qui en sont dingues, on les appelle d'ailleurs les Deadheads, et d'autres qui n'ont jamais pu entrer dans l'œuvre foisonnante qu'ils ont produite. S'il y a bien un groupe de mélange, c'est bien eux qui, tout au long de leur carrière, ont fusionné bluegrass, blues, country, folk, rock, psychédélisme, jazz, rhythm and blues, raga indien et que sais-je encore. Ils ont été de toutes les expériences Et révolution des 60s, des happenings au Acid Test, ils ont été les porteurs d'une musique largement improvisée avec ses avantages et inconvénients selon les soirées, les substances assimilées et l'inspiration parfois présente, parfois non. Ici, c'était un morceau de l'album Blues for Allah, ce disque avec une pochette magnifique, un dessin qui représente un squelette jouant du violon. Après la disparition du guitariste principal Jerry Garcia, Bower, l'autre guitariste, a continué à porter le flambeau avec une certaine réussite et sans souci de profit, fidèle à la philosophie du groupe. La seule chose qu'on pourra lui reprocher, en démontrent les dernières photos et vidéos de ses prestations live, la seule chose qu'on pourra lui reprocher, c'est de jouer en short et en sandales, ce qui est vrai est inexcusable. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Portez-vous bien, tenez-vous mal. Et gardons la joie, même jusqu'au Groenland.
Les bêtises.